RMC, entre les poteaux, Wilfried Templier.
Salut à toutes et à tous, on voit bien que depuis plusieurs années que les staffs des équipes sont de plus en plus étoffés, développés, enrichis. Dans les années 80, si on remonte, on a vu débarquer des préparateurs physiques, puis plus tard, ce fut au tour des préparateurs mentaux. Sont venus des analyses vidéo avant de découvrir des entraîneurs sur ce qu'on appelle le spécifique, mêlée, touche, défense, skills. On en a pour tous les goûts dans le détail, qui fait le haut niveau dans la course à l'innovation, à celui qui pensera à la bonne idée avant l'autre. Une catégorie, un profil est apparu récemment dans les encadrements. L'arbitre, beaucoup viennent depuis longtemps jouer les consultants à l'entraînement, ponctuellement, à Castres, au Stade Français, à Toulouse, partout. On vient arbitrer les séances, conseiller, habituer les joueurs à ce sport, aux règles infinies et aussi simples à décortiquer qu'il est dur pour Denis Charvet de prononcer Taofi Fenua. C'est de cette manière que notre invité du jour a mis un pied à Montpellier. Il intervenait, mais depuis le début de saison, il est permanent. À la différence près, c'est que lui était déjà entraîneur au niveau amateur et qu'aujourd'hui, c'est ce titre qu'il a dans le staff du MHR, entraîneur, précisément entraîneur en charge des rocks, des attitudes au contact et de la discipline. Vous aurez deviné qu'Alexandre Ruiz, ancien arbitre international, est entre les poteaux aujourd'hui. Et ça tombe bien, car on a plein de questions à lui poser, ça va être passionnant. Bonjour Alexandre.
Oui, bonjour.
Passionnant, comme l'est toujours notre consultant vedette, Denis Charvet. Bonjour Denis.
Merci, quel honneur.
Passionnant, comme un middle du lundi, Manu Massicard.
Salut les amis.
Bonjour. Et passionnant, bonjour. Comme un hurlement dans le micro de Julien Landry sur un but de TJ Savagnier. J'avais que ça, je sais pas ce que ça vient faire là, mais j'avais que ça, ça me plaisait.
Bonjour. Salut les potos.
Allez, tout le monde est là. Alors, hands away, on accueille notre invité, car l'arbitrage, c'est aussi des punchlines.
Ça sera pas possible par un quatrième minute de faire ça. On ne faire que commenter. D'accord ? Ok, merci.
Je viens sympathique, il y a des limites. Noël, c'était avant-hier, il n'y aura plus de cadeaux maintenant. C'est terminé.
Vous parlez, vous comprenez le français, c'est bon pour vous.
À côté de moi, il vient de se jeter un sac rose. Il est passé à 30 cm de ma tête. Hein.
Oui, c'est pour ça qu'il y a un carton.
Okay. Donc pour moi, c'est sûr que c'est Betting Impact. Okay. Juste. Red card. Because contact head to the shoulder.
Moi, si j'ai la tente, t'arrives après le truc sur cette générale là.
Vous voulez faire respecter le français une fois ou c'est bon? Si vous ou un de vos joueurs continue encore à lever les bras au ciel, ça sera pénalité au centre du terrain et après je mettrai les cartons. On se voit quelle est la vidéo.
Ah, ça nous manquerait presque, mais ça c'était la vie d'avant d'Alexandre Ruiz. On est très heureux de t'avoir avec nous entre les poteaux, le podcast rugby que tu loupes jamais, j'imagine Alexandre, ça j'en suis sûr. Comme d'ailleurs beaucoup de passionnés qui sont de plus en plus nombreux à nous télécharger, à nous écouter, messieurs, on en profite pour les remercier, mille bisous à vous.
Alexandre, c'est un peu bouché les oreilles quand il a entendu parce qu'il s'est dit mince, pour tout je crois avouer, surtout celle en anglais.
Et pour le balancer, c'est Pierre Amiche qui s'est fait plaisir, hein, qui a trouvé, mais c'était génial, c'était la vie d'avant, mais ça nous manque un peu, ça nous manque. Avant de parler de alors j'ai pris le parti de tutoyer Alexandre Ruiz, vous m'en voudrez pas les potos, j'espère qu'Alexandre Ruiz
ah non,
m'en voudrez
pas.
Lui va t'en vouloir.
On va parler de toi, de ton parcours, de ton rôle à Montpellier, mais on profite avant de ta présence pour évoquer l'actualité chaude, le 8e de finale aller de Champions Cup que Montpellier remporté 40-24 face aux Harlequins. Alexandre, est-ce qu'on est satisfait d'avoir passé 40 points aux champions d'Angleterre ou on a des regrets quand à un moment du match on a mené, c'est 31-0, c'est ça?
34-0
même. Est-ce qu'on a des regrets?
Non, d'abord c'est 40-26, donc on a plus 14.
Ah ouais, déjà. Bien, boum, d'entrée.
On a plus 14 pour samedi prochain. Après j'ai tendance, comme dans les punchlines là, que je viens d'écouter, donc c'est cool, de voir toujours le verre à moitié plein. Donc du coup là je me dirais que les punchlines c'était du passé, il y en a eu 7 ou 8 en 10 ans, donc ça va quand même, c'est pas trop abusé. Et au-delà de ça, non, le verre à moitié plein parce que franchement on a fait 50 minutes je pense de bonne qualité, voire de très bonne qualité. Après je pense que par rapport au rythme, il y a eu la chaleur aussi et peut-être inconsciemment un peu de relâchement, donc voilà, on a conscience de ça, les joueurs en ont conscience parce qu'on en a parlé de suite hier soir après le match dans le vestiaire, et donc on part à plus 14 pour le match retour, donc c'est quand même de bon augure. On a fait des choses super intéressantes pour les équipes qui disaient qu'on n'était pas une équipe qui produisait du jeu. Je pense qu'hier on a produit beaucoup. On a joué en contre en effet, mais aujourd'hui l'équipe de France elle a gagné le Grand Chelem en dépossédant beaucoup le ballon, en ayant une défense de fer et en jouant les contres, les turnovers. Donc ça nous donne de bons indices pour la suite.
Plus 14, beaucoup de clubs auraient signé. Plus 14, beaucoup de clubs auraient signé pour avoir cette avance avant 8e retour. Par contre, Alexandre, ça garantit presque rien face à ces équipes qui, on a l'impression, capable de relancer du parking. Hein.
Mais en fait, on avait beaucoup parlé dans la semaine parce qu'on a regardé. Moi, j'ai regardé surtout leur demi-finale l'année dernière contre Bristol et je regardais leur finale contre Exeter.
Oh, il y a des scores de fou.
Et c'est surtout que contre Bristol, ils étaient menés presque 30 points, je crois, ouais, à la mi-temps. Ouais. Et du coup, ils sont revenus après prolongation. Du coup, ils ont fait pareil contre Exeter. Donc, c'est une équipe qui. On avait prévenu les joueurs, on le savait. Mais voilà, après, on va retenir. Et en tout cas, moi, ce que je retiens dans ma tête, c'est les 50 minutes. Et on va essayer de faire en sorte de faire la même chose. En tout cas, la météo sera pas la même. Ça, c'est une évidence. Et donc, il va falloir qu'on s'adapte à la météo et qu'on se serve de ces 30 minutes qui étaient un peu moins de bonne qualité pour la suite.
Ouais, Denis, t'as pensé quoi du match ?
Non, mais c'est la première fois. Il y a une donnée à prendre en compte, c'est que c'est la première fois que c'est des matchs aller-retour. Donc la psychologie va être très importante. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'habitude. C'est-à-dire qu'on pense qu'on a joué un match, on l'a gagné, mais il y a un retour.
Les Montpellierains, Denis disait hier, on est à 0-0.
Oui, mais les Anglais vont le préparer. Donc ils auraient pu tuer le match, ils n'ont pas réussi à le tuer malheureusement. Mais attention au retour, parce que cette équipe de Harlequins, elle est quand même. Alors Montpellier a fait un super match pendant 50 minutes. J'ai vu le match. C'était d'ailleurs incroyable de voir ça. Tu te demandais si tu rêvais pas. Mais après, quand je vois l'équipe qu'ils ont, les Marcus Smith, voilà, attention au retour, ça va être costaud.
On verra donc la suite. Ce match est à 13h30 au Stoop, samedi, le stade d'Harlequins, c'est juste à côté de Twickenham. On reparle des 8e de finale à la fin de ce podcast. Alexandre, je le disais, avant de parler de ton nouveau rôle cette saison au MHR, on voulait parler de toi, parce que les gens connaissent l'arbitre international, on y revient, mais explique-nous ton parcours, parce que tu es natif de Béziers, tu as 35 ans, mais tu as été joueur très tôt et arbitre très tôt, puis entraîneur aussi assez tôt.
Ben oui, en fait, j'ai 35 ans depuis peu. Je suis issu d'une famille de rugbyman, mais pas d'arbitre. J'ai fait mes classes à Portirane, à mon village, à côté de Béziers, là où j'habite encore aujourd'hui. Et ensuite, j'ai joué en minime cadet à Béziers. En junior, je suis parti à Agde. Et très tôt, j'ai pris le chemin de l'arbitrage, où j'ai engagé un double projet, c'est-à-dire arbitre et joueur, pardon, lapsus.
À quel âge ?
En fait, je suis rentré dans les pôles espoirs. J'étais le premier à 16 ans à rentrer dans les pôles espoirs en tant qu'arbitre en France. Ça avait été sous la gouvernance de Pierre Villepreux, qui était à l'époque DTN de la Fédération Française de Rugby, et qui avait mis en place dans les pôles espoirs 3 places par année sur les pôles espoirs en tant qu'arbitre. Donc du coup, c'était pour promouvoir l'arbitrage. Je trouvais que c'était une bonne chose. En tout cas, je suis passé par là, donc je ne pourrais pas dire le contraire. Et ensuite, je suis très vite tombé dans l'entraînement, parce que quand j'ai arrêté de jouer à 19 ans, quelque chose qui me manquait, c'était la relation, le vestiaire, toutes ces valeurs-là qui sont importantes quand on joue. Et du coup, j'ai été passionné par l'entraînement, j'y suis tombé très tôt. Et j'ai le sentiment d'avoir respecté en tout cas une certaine chronologie, parce que j'ai commencé à entraîner des minimes, des cadets, des juniors, des réchelles. Et ensuite, je suis parti entraîner à Agde, en réserve en Fédéral 2, en Fédéral 1, et puis une première en Fédéral 3 à Capestin, à côté de Béziers. Et après, j'ai pris le parti de rejoindre mon papa, qui était malade en 2016, 2017, 2018, à la retour des Jeux Olympiques, pour entraîner le club de 7 en honneur. On était champion du Languedoc, mais on n'est pas monté parce qu'il manquait des cadets et des juniors. Et après, je suis parti à Cognac-Saint-Jean-d'Angélis, c'est Christophe Massec qui était manager à cette époque-là. Et Christophe, j'avais connu à Béziers, où j'intervenais ponctuellement sur l'arbitrage. Et du coup, j'ai eu l'opportunité d'être manager des espoirs et entraîneur des avants de l'équipe qui était à ce moment-là professionnelle, puisque c'était contre Fédéraux à Cognac, Saint-Jean. Et donc voilà, donc j'ai fait ce parcours-là et je suis revenu ensuite à 7 l'année dernière à la sortie du Covid. Et après, l'opportunité de Montpellier s'est présentée. J'avais passé entre-temps, en 2018, mon diplôme d'État à Marcoussis.
Comment on fait pour concilier tout ça ? Parce qu'entraîneur, arbitre, c'est une vie plongée dans le rugby, non ?
Ben, la résultante, elle est simple. Hein. C'est qu'aujourd'hui, j'ai 2 enfants de 6 et 8 ans et je suis divorcé depuis 3 ans. Et donc, du coup, ben, y a un sacrifice. Ça a été ma vie personnelle, entre guillemets, pas ma vie de père de famille, puisque j'ai la garde alternée une semaine sur deux. Donc, je fais en sorte de remplir mon rôle à plein temps. Mais c'est vrai que voilà, les semaines où j'ai les enfants, et là je viens de les poser, c'est pour ça que je peux être tranquillement chez Julien. Ça me permet aujourd'hui de la semaine où je les ai, de passer du temps avec eux, et la semaine où je les ai pas, ben, de me consacrer encore plus et rester tard le soir au stade et partir très tôt le matin de la maison.
ça mange de l'énergie, du temps, tout, plein de choses. C'est parce que déjà entraîneurs, on les voit, ils sont tracassés, les entraîneurs. Les arbitres, c'est une pression particulière. Non, mais c'est vrai, c'est une pression de tous les instants.
Ouais, ouais. Après, il y a, c'est comme dans ce que je disais au tout début, et c'est ma, vraiment c'est ma conviction profonde, c'est que j'ai tendance à regarder beaucoup le verre à moitié plein, et que ok, ça fatigue, mais sincèrement, je me lève pas le matin à 3h du matin pour aller à l'usine. Et aujourd'hui, ouais, je vis de ma passion, que ce soit par l'entraînement aujourd'hui, mais par l'arbitrage pendant 10 ans. J'ai vécu de ma passion, j'en vis bien. Et aujourd'hui, on se rend compte que dans la conjoncture actuelle et la société actuelle, vivre bien de sa passion, c'est tellement rare qu'il ne vaut même pas faire la fine bouche.
Dis-moi, tu ne manques pas l'arbitrage ou...
C'est Denis qui parle, c'est ça?
Oui, oui.
Oui, Denis, je vais être sincère. Oui, ça manque parce que c'est comme quand tu as arrêté de jouer... Tu avais vécu des saisons magnifiques.
Donc on va parler de moments de bascule, Alexandre, donc, entre l'arbitrage et l'entraînement. Manu, est-ce que tu as, avant d'évoquer ça, est-ce que tu as une question pour Alexandre ou...
D'abord, deux mots pour le remercier de sa franchise, sa sincérité, sa capacité à partager son histoire. C'est rare et on se dit, voilà pourquoi aussi les arbitres de rugby sont peut-être plus respectés qu'ils ne le sont au foot. Bravo Alexandre pour cette clarté et ce partage. Qu'est-ce qui te manque de l'arbitrage quand tu te retrouves aujourd'hui entraîneur, technicien? Est-ce que tu abordes les matchs et la semaine de la même manière ou est-ce que c'est totalement différent?
Non, c'est clairement totalement différent. Ce qui me manque vraiment aujourd'hui, et je vais être sincère, c'est la relation d'amitié que j'avais pendant 10 ans avec les gens avec qui j'ai travaillé pendant 10 ans, que j'ai côtoyé, avec qui j'ai certains, entre guillemets, sans être prétentieux, traversé le monde. Et du coup, je m'en prive parce que ça a été par volonté d'avoir moins de relations pour éviter culturellement, on est latin et on a toujours tendance à regarder... les autres, à les jalouser à la place de voir que ce qui se passe ailleurs, c'est des fois ça peut être un peu mieux. Donc du coup, je me prive de cette relation-là. Donc là, clairement, ça me manque un petit peu. Après, ce qui m'a fait aujourd'hui avoir un petit peu la boule au ventre, c'est sincèrement, c'est le Six Nations. Je trouve que c'est un événement tellement fabuleux que j'ai pu arbitrer et que voilà, ça me manque vraiment. C'était pour moi dur pendant ce Six Nations 2022. Et ensuite, comme on aborde la semaine, franchement, quand j'avais signé, Philippe PSA m'avait dit, que ce soit Z ou Jamba, fais gaffe, tu vas rentrer dans une machine à laver et t'en sortiras que pendant les vacances d'été. Et du coup, aujourd'hui, c'est vrai que du lundi au dimanche, c'est clairement une machine à laver, tu te fous à l'intérieur et ça s'arrête jamais, quoi.
Sans adoucissant.
Voilà, c'est ça. Donc, c'est un rythme effréné, incroyable. Je pensais pas que c'était sincèrement aussi dur en termes de rythme. Mais après, c'est tellement... voilà. Aujourd'hui, les résultats sont présents, on vit bien ensemble.
Vous êtes premier du top 14, on le rappelle.
Voilà. Alors,
ouais, puis Alex a du mal à arrêter pour le suivre du coup depuis 8 mois. Parfois après match, quand tout le monde va boire des bières, Alex, des fois, il se replonge très vite.
Tu veux dire qu'il aime la bière, oui.
Non, justement.
Il paraît que les joueurs ont très vite des bilans.
C'est-à-dire qu'Alex, dès que le match est terminé, il se plonge dans la vidéo et il envoie des analyses vidéo déjà très précises aux joueurs. C'est-à-dire que les joueurs rentrent dans le bus et ils ont déjà leur analyse vidéo qui est prête avec tout ce qui n'a pas été sur le match.
Alors, vas-y, Denis, je voulais parler de la bascule pour Alexandre.
L'ancien joueur, c'est vrai qu'il ne boit pas de bière. Bon, non, j'ai une question pour Alexandre, parce que ce qui m'intéresse, c'est son regard d'ancien entraîneur, de grand entraîneur, d'arbitre. Et j'aimerais savoir, en fait, il y a des fautes que tu vois, vois que personne ne voit.
Le fil conducteur, on verra plus tard. Hein.
Non, mais...
Vas-y.
Le fil quoi ?
Il n'y a pas de fil conducteur.
Vas-y.
Avec Cessieux, il y a un fil conducteur, pas avec toi. Ton regard d'arbitre m'intéresse, parce que... Je comprends la démarche d'un club qui te recrute, mais après, je pense que toi, tu vois des fautes que personne ne voit.
Non, je suis d'accord, Denis. C'est pour ça que là, aujourd'hui, j'arrive encore, après 10 mois, même dans une machine à laver qui bouge beaucoup, à avoir un petit peu le recul et pas oublier d'où je viens. Et du coup, c'est vrai que quand je vois des fautes sur le terrain, j'ai tendance à dire j'aurais fait ça ou j'envoie des informations.
On gueule après l'arbitre ?
Non, pour l'instant je me suis bien tenu et les journalistes sont toujours à côté de moi et pour voir que pour l'instant j'arrive à me tenir.
Attention, ils cafent les journalistes en plus.
Ouais, mais ils sont une bonne bande à côté là, donc je les repère, je sais où ils sont maintenant. Et du coup, c'est plus simple, mais en tout cas, Denis, pour répondre à ta question, c'est vrai que parfois j'ai tendance à avoir des fautes, mais aussi je sais qu'est-ce qu'est la dureté de mon ancien métier.
Et c'est le revers de la médaille. Oui.
Et je veux pas non plus, en fait, et je vais utiliser un mot vulgaire, mais je veux pas me déchirer dessus, quoi. Et du coup, je sais tellement que c'est dur. Je l'ai vécu pendant 10 ans et c'était pas simple. Donc il y a des choses qui me paraissent simples et que je pense qu'ils sont évitables. Il y a des choses qui sont tellement dures parfois que j'ai pas envie non plus de remettre en cause tout un système dans lequel j'ai mangé.
Et pour l'anecdote ouais. juste des tribunes, l'année dernière on entendait souvent Philippe crier hors-jeu, hors-jeu. Et cette année, et cette année des fois, en début de saison il a fait. Et Alex, il regardait en disant non, il n'y a pas hors-jeu. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup moins Philippe dire hors-jeu contre les arbitres.
Alexandre, tu as arbitré ton dernier match, et non des moindres, le 12 juin dernier. C'était l'Access Match, hein, si je ne me trompe pas, c'est entre ça. Biarritz et Bayonne, qui se termine au tir au but. Incroyable match, match en plus. Et tu as basculé dans ton rôle au MHR. Qu'est-ce que tu fais dans le staff? Quelle est ton action concrètement, ton travail de la semaine avec les joueurs?
Ben, en fait, et là c'était le deal avec Julien, hein, donc c'était important, et je lui ai encore dit ce matin.
Tu es entraîneur.
Exactement. Et ça me paraît hyper important parce qu'aujourd'hui, on va rentrer dans un cycle où peut-être des vocations vont se créer, et clairement, j'ai contribué à la vocation. Donc il y a à Romain, à sa. Merde, comment
on Romain Poit.
Reconversion par contre de Romain, oui. Parce que je pense que, c'est une bonne chose. Mais un truc est sûr, c'est que moi, j'entraîne, vous l'avez dit depuis longtemps, j'ai mes diplômes d'entraîneur aussi. Et qu'aujourd'hui j'ai fait de l'entraînement, donc j'ai les ballons sous les bras et je mène des exercices dans les secteurs qui sont mes domaines de compétences et qui appartiennent à ma fiche de poste entre guillemets. Et donc du coup j'ai quand même ce regard de la discipline où le J+2, c'est-à-dire demain, aujourd'hui puisqu'on a joué dimanche, on va débriefer sur ce qu'on a fait de bien et pas bien sur notre discipline, mais on bosse pas que sur la discipline pure, c'est-à-dire que je dis pas aux joueurs là c'est blanc, là c'est noir, je dis surtout qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux, quel regard on a, quelle image on dégage, comment est notre comportement et comment on peut aujourd'hui améliorer cette image qu'a le club, qu'ont l'équipe, qu'ont les joueurs, exactement. Et du coup, ça me paraît hyper important de ne pas s'arrêter simplement au fait de dire oui, blanc, noir, oui, non.
Ouais, faute, pas faute.
Exactement, c'est trop simpliste. C'est quelque chose que je préfère très simplement. Ça me prendrait un quart d'heure et je suis à temps plein au club. Quoi.
Julien, est-ce qu'on a un retour et contrôle surprise pour Alexandre Ruiz. Est-ce qu'on a un retour concernant son travail? Est-ce que dans les chiffres.
Discipline, ruck, pour les fiches de poste d'Alexandre, donc simple, la saison dernière Montpellier après 26 journées c'était 26 cartons jaunes et un carton rouge, on est à 4 journées de la fin, Montpellier a pris que 11 cartons jaunes cette saison, donc c'est-à-dire la moitié moins que la saison dernière, il tourne à un peu plus de 10 pénalités par match en top 14, l'équipe la moins pénalisée du top 14 c'est Toulouse avec 10,2, Montpellier aujourd'hui à 10,5 quand il tournait à 13 ou 14 pénalités la saison dernière, et sur les zones de ruck, par exemple, dimanche, hier, contre l'Harlequins, les Montpellierains n'ont perdu qu'un seul ruck sur l'intégralité des rucks qui ont été disputés sur la rencontre. Ouais. La preuve aussi que voilà le travail que fait Alexandre porte ses fruits aujourd'hui. Vous l'avez dit, Montpellier est leader du top 14. C'est la première fois que Montpellier disputait un match de phase finale, qui plus est à domicile. Alors c'est vrai que c'est des matchs aller-retour, mais voilà, oui, le travail d'Alexandre aujourd'hui porte clairement ses fruits, et les joueurs sont aussi ravis. Des retours, même si c'est parfois un peu piquant, les retours que peut faire Alexandre sur la discipline. Mais voilà, évidemment, ça porte ses fruits aujourd'hui au sein du MHR.
Ils en arbitrent sur le dos toute la semaine. Denis, c'est prépondérant quand on voit aujourd'hui, bon, nous, on a suivi le tournoi, la discipline, attitudes. Les attitudes aussi, parce que beaucoup d'équipes, des Français aussi culturellement, des fois,
ils
se mettent des arbitres à dos.
Tu as raison, on n'a pas l'éducation, nous Français. Alors, est-ce que les autres pays l'ont plus que nous? Sûrement, peut-être en Nouvelle-Zélande.
Enfin, Alexandre va peut-être nous le dire, mais c'est une image qu'on a, nous, comme
mais
ça.
C'est vrai, je trouve que. Bon, moi, j'étais joueur, pareil. Je crois qu'on manque d'éducation à ce niveau-là et on devrait respecter davantage ce corps arbitral. Mais je trouve que ça s'est assagi. Je trouve que maintenant, avec les micros, ça permet quand même de voir les joueurs plus détendus, moins agressifs et que l'arbitre est plus à l'aise dans son rôle.
C'est quelque chose sur lequel Alexandre a insisté depuis le début de la saison pour avoir beaucoup discuté avec lui. C'est l'attitude aussi des joueurs, ce qu'il disait tout à l'heure, et que du club renvoie auprès de l'arbitre. On voit quasiment plus aucun Montpellierain protester après les arbitrages sur les coups de sifflet. Il n'y a que le capitaine qui vient parler. Et c'est vrai qu'Alexandre insiste beaucoup sur les attitudes. Et c'est vrai que les joueurs aujourd'hui de Montpellier, en tout cas, on ne les voit plus râler, lever les bras, protester contre les décisions arbitrales. Même si Denis a raison, ça se généralise de plus en plus, mais Alexandre, il tient beaucoup à Montpellier.
Manu, ça se fait de plus en plus, hein, des arbitres dans les clubs. Ponctuellement, il y en a beaucoup qui le font. L'apport est là, puis bon, bah, les autres sont pas plus bêtes, tout le monde s'y met. Faudrait pas qu'il y ait plus d'arbitres entraîneurs que d'arbitres tout court au bout d'un moment,
bah,
peut-être, Manu.
Au moins, on est sûr d'une chose, c'est qu'ils maîtriseraient la règle. Et c'est quand même plus facile pour la transmission et la compréhension du jeu. Non, c'est une super idée au moment où tous les staffs sont de plus en plus étoffés que d'avoir des mecs qui connaissent la règle et qui sont capables de décrypter l'évolution du jeu, toujours pareil, en renvoyant des messages positifs sur l'attitude des joueurs, sur le comportement des joueurs. Pour moi, je parlais du foot, hein, le rapport avec le football, c'est un élément prépondérant qui fait que le rugby est différent du reste des autres sports. Peut-être pas plus fort, mais différent. Et ce rapport à l'arbitrage, ce rapport à la règle, au respect et à la compréhension du jeu, il est pour moi essentiel.
Et le football devrait s'en inspirer totalement, parce que je trouve que cette évolution, elle est formidable.
Ouais, ouais, ouais.
Et oui, moi je trouve que dans ces staffs qui sont de plus en plus grands, étoffés, je trouve que ce rôle d'Alexandre ou d'autres, je trouve qu'il est essentiel. Pour moi, il est essentiel par rapport au message qu'on doit transmettre.
Et Alexandre, est-ce que les joueurs connaissent la règle ? Les règles ?
Mais pour dans le sens de Denis, de l'observation qu'il a faite juste avant, je pense que culturellement en France, on avait beaucoup de retard sur la connaissance, mais moi c'est moi le plus profond, j'y vois, c'est en fait c'est l'importance qu'on accorde à l'arbitrage, à la règle et à l'arbitre, qui est là où nous sommes vraiment en retard. Pour comparer à Nouvelle-Zélande, parce que Denis a pris l'exemple de Nouvelle-Zélande, si on se fait mal à la tête et qu'on revient à la finale 2011, on va pouvoir avoir des avis sur le comportement de Richie McCaw sur les actions. Mais Richie McCaw, il avait la connaissance parfaite d'un, de la règle, et de deux, de ce que voulait voir Greg Joubert sur le terrain. Et pour moi, ça, c'est une résultante...
Mais c'est une psychologie incroyable du joueur aussi.
Oui, tout à fait, mais c'est un travail sur lequel nous on y bosse aujourd'hui. C'est-à-dire que
c'est
connaître un paramètre qui est important. Dans le rugby actuellement, les staffs sont plus élargis, mais on a des paramètres qui étaient importants. On prend en charge, par exemple, ou en compte l'opposition en face de nous, les forces et les faiblesses. Donc on se dit, bon, ils ont des forces, on va essayer de ne pas jouer face à des forces, on va jouer leurs faiblesses. On prend un paramètre qui est important, c'est la météo. Quel météo il va faire, donc il y a du vent, pas de vent. Et ça, c'est les critères sur lesquels la semaine, ben, on y réfléchit. Mais les clubs aujourd'hui, au milieu du temps en France, je trouve, à considérer le paramètre de l'arbitrage. Et qui est un paramètre important aujourd'hui.
Alexandre, tu as parlé de Romain Poit qui va rejoindre le club de Toulon. Il y a eu Jérôme Garcès qui est dans le staff du 15 de France. Après, c'est des profils un peu différents parce que c'est fin de carrière après, hein, c'est un enchaînement de fin de carrière par rapport à toi. Est-ce que tu penses que tu vas faire des émules? Est-ce que c'est justement, il y a des arbitres qui s'interrogent là-dessus?
Moi je suis, ce que je dis tout à l'heure, là où je m'interdisais, c'est parler à certains arbitres durant la semaine pour pas rentrer dans un panier et les mettre en difficulté, mais Romain par exemple était présent à mon mariage et je peux pas non plus oublier les gens avec qui j'ai créé des relations depuis 10 ans, et Romain je savais qu'il était en fin de carrière, donc et comme vous le savez, dans ce sport aujourd'hui on a tous des agents, et donc je voulais présenter mon agent pour préparer sa future conversion. Et aujourd'hui ce que je dis à Romain, c'est que c'est un besoin, je sens aujourd'hui mon apport utile, c'est-à-dire que au quotidien, je sens que les joueurs ils sont plus à l'aise, ma porte de bureau est ouverte, l'ordinateur est ouvert, ils viennent se questionner. Un exemple tout bête, la touche qu'a sauvé Romain Intamac samedi après-midi, en suivant l'action, par exemple, Kubus Reinhardt m'a envoyé un message en me disant « Oui, mais c'est quoi le point de règle, puisque les joueurs sont devant, on a été pénalisé à Perpignan et pas lui là ?» Et donc, même Kubus, qui est quand même dans le squad des champions du monde, a des questions à se poser.
Ouais,
et donc,
c'est intéressant.
Du coup, pour moi, c'est hyper riche. C'est-à-dire qu'au quotidien, on se pose beaucoup de questions, on réfléchit sur qu'est-ce qu'on peut faire de mieux avec la règle aujourd'hui.
Mais ça veut dire que les joueurs ont des doutes, forcément. On est d'accord.
Tout à fait, je suis d'accord. Ils ont des doutes. Et moi aussi, j'en ai des doutes. C'est-à-dire que moi, mon bouquin, il est ouvert aussi, il est sur le bureau. Je ne pense pas détenir la vérité. Après, il est plus simple parce que je sais où je peux retrouver la règle, parce que je connais le secteur.
Après, je ne sais pas s'il y a un sport plus compliqué que le rugby, Alexandre.
Oh, je ne pense pas non plus.
Oui, mais justement, c'est en ça que tu apportes ton expérience et ta vision des choses.
Et parfois, il anticipe aussi. Pas parce qu'Alexandre, il lit tous les jours World Rugby pour savoir les anticipations de l'arbitrage. Et parfois, j'ai pu lui envoyer moi aussi des messages sur des choses que je voyais en disant « C'est bizarre, j'ai vu ça ». Il me dit « Oui, on y a travaillé cette semaine. C'est une nouvelle règle sur laquelle World Rugby s'est pas encore totalement positionné. Du coup, on anticipe aussi ce qu'ils peuvent faire avec peut-être 15 jours, 3 semaines d'avance sur les autres staffs du top 14. »
Il y a une chose très importante et je veux l'aborder parce qu'Alexandre, tu as dit « Je me restreins de trop communiquer avec les arbitres ».
Oui.
Justement, ça, moi, ça m'intéresse parce que c'est une question que je me posais. Est-ce qu'il y a un risque d'être pointé du doigt par vos adversaires qui pourraient dire bah oui, mais Ruiz, c'est le copain des arbitres, on comprend certaines décisions, et de mettre une certaine forme de pression. Ça claque pas la bise avant l'échauffement du match et...
Non, mais c'est vrai. Quesada.
Ça s'est passé, ça, en fait?
Non, ce que tu me dis. Gonzalo Quesada, après le match aller où le Montpellier avait imposé au Stade français,
je l'ai dit comme ça,
Gonzalo Quesada avait dit que la meilleure recrue du MHR à l'intersaison était Alexandre Ruiz.
D'accord. Alors, Alexandre, justement, est-ce qu'il y a une, y a une retenue avant les matchs? Parce que le monde du rugby n'est pas du tout pareil. Noyaque, hein. On le dit pas du tout.
Loin de là, mais je crois que c'est culturel, par exemple. C'est, on est latin et on va toujours, ou tendance à voir le verre à toujours à moitié vide, regarder ce que les autres font et pas tendance à regarder ce qu'on fait de mieux ou pas bien. Franchement, oui, et c'est ce que je disais tout à l'heure en préambule, c'est que pour moi, ça c'est très très dur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, je prends l'exemple de Mathieu et Romain, où en 2019, on a vécu 52 jours. Côte à côte, au quotidien,
au Japon,
à la Coupe du Monde.
Et Romain Poit.
Exactement. Je prends l'exemple de hier, Andy Brace. Andy Brace, on avait la chambre côte à côte pendant 52 jours. Mais je m'interdis de le voir avant le match. Je ne l'ai pas appelé de la semaine. Je n'ai pas envoyé de texto. Alors que, outre ça, on s'envoie souvent des messages sur des matchs, quand je vois ces matchs, quand ils voient les nôtres. Et on discute. Mais non, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas envie que. Qu'on dise oui, Montpellier, même si je l'ai entendu déjà, et il a pris l'exemple Julien, et je trouve ça très très trop simpliste, et franchement ça m'a vexé, parce qu'on a tendance à dire ben, parce qu'on fait bien notre travail, je prends une remarque que m'a dit Z, parce qu'on fait bien notre travail, eh ben, du coup on est critiqué. Je trouve ça très dommage, en fait, à la place de dire franchement Montpellier, ce qu'ils ont fait, ils ont recruté un arbitre, qu'il est entraîneur, il apporte quelque chose, ben non, on va dire ah non, mais parce qu'il est arbitre, il les connaît, du coup ils sont favorisés, et je trouve ça du dramatique, quoi.
Z, c'est Olivier Azam, entraîneur des Avants, ouais. Du MHR.
Bah, la paranoïa, Denis, voilà, dans le rugby, mais c'est une forme de pression aussi, pour ouais, le coup d'après, c'est
au menu,
c'est comme ça, c'est dommageable, c'est vrai.
C'est partie de notre culture.
Est-ce que, alors Denis, te disait Alexandre, est-ce que quelque chose te manque de la vie d'arbitre? Alors je sais pas techniquement, mais est-ce que dans les années à venir tu pourrais redevenir arbitre ou non, c'est terminé?
Mais en fait, comment ça s'est passé, ma fin à la fédération et mon début à Montpellier?
Oui, la bascule, ce que je disais.
La bascule a été très simple. En fait, je suis biterrois et tout le monde le sait. J'intervenais l'année dernière à partir de février avec Pierre Caillé à Béziers, où j'intervenais sur les phases de collision, les phases de ruck et la discipline. Et Pierre Caillé a été entraîné par PSA. Et a joué avec Olivier Azam, et du coup en discutant, Pierre lui a dit Alex, il est venu, ça se passe bien, là, là, là. Et donc du coup ils m'ont demandé de venir avant la demi-finale de Coupe d'Europe à Basse l'année dernière, et Basse avait une stratégie sur les pick and go, ils faisaient des pick and go à 3, là, ce qu'on voyait là, avec un joueur lié sur le côté et un joueur qui était en position de pousseur comme en mêlée, la position du 8. Et j'avais dit à Olivier Azam, si tu veux contrer ça, il faut impacter le latcher. Et du coup, j'avais dit à Z, si tu veux contrer ça, tu peux l'impacter, pas le plaquer. Et si Andy Brace, d'ailleurs c'était Andrew qui arbitrait, il te pose la question, tu lui dis, ben, explique-moi comment on peut faire à un défenseur plaquer trois mecs qui arrivent liés en face de moi. Et à ce moment-là, c'est la séance de pick and go de Basse qui dure 7 minutes ou 8 minutes proche de la NDC de Montpellier. Et au moment où Paul Willem C lui pose la question à Andy, Andy prend le ceiling off, le mec qui plonge de Basse. Et du coup, à l'issue du match, PSA il me dit, bon, est-ce que tu pourrais revenir la semaine de la finale, s'il te plaît? Et donc, la fin de la finale, c'était encore Andy Brace. Et donc j'étais venu parce qu'ils avaient fait la demande auprès de la Fédé, c'était dans la convention LNR-FFR sur le déplacement des arbitres professionnels sur les structures de top 14 Pro D2. Et du coup, voilà, donc à l'issue de ça, après la demi-finale, donc PSA me convoque à la fin de la journée, il me dit Alex, quel est ton avenir dans l'arbitrage, qu'est-ce que tu aimerais faire, etc. etc. Ben, je lui dis, tu sais, moi, Philippe, l'arbitrage, ça se passe bien, etc. Mais je sais que je me projetterai un jour sur l'entraînement. Quand est-ce que j'en sais rien? Donc, il me dit, est-ce qu'on peut en discuter? Donc, on en a discuté, mais à l'issue de cette intervention-là, j'ai appelé de suite Franck Massiello et je lui dis, écoute-moi, Franck, s'il te plaît, j'ai une discussion avec Montpellier. Rien n'est aujourd'hui officiel, mais par contre, ce que je te demande, c'est de ne plus arbitrer Montpellier, ni les équipes qui sont en concurrence avec Montpellier. Donc, en l'occurrence, c'était Pau et Bayonne à cette époque-là. que je voulais plus les arbitrer pour pas qu'on puisse un jour, si demain je passais dans l'autre côté.
Comme Romain Poit n'arbitrera plus Toulon sur la fin de saison, apparemment.
Ouais, je pense que c'est normal. Et puis il fallait que ce soit annoncé pour que Romain soit tranquille aussi. Mais donc ça me paraissait entièrement normal. Donc du coup, dans cette démarche-là, j'étais revenu à la finale. Et là, c'est là où Philippe m'avait ensuite fait une proposition très concrète, à laquelle j'avais convoqué le DG de la Fédé, le DRH de la Fédé, Jérôme Garcès, qui était à l'époque manager des arbitres, et Franck Massiello. Je leur ai demandé une visio pour leur expliquer la situation dans laquelle je me trouvais, avec une proposition de contrat de Montpellier, et moi qui arrivais en fin de contrat avec la FFR. Et donc là, je voulais être très clair avec eux, j'avais un temps de réflexion, et donc pour revenir à tout ça, c'était pour dire que j'avais aujourd'hui accepté la proposition de Montpellier en refusant la prolongation de contrat de la FFR. Mais en aucun cas, j'ai annoncé haut et fort que je prenais ma retraite. Donc, je ne sais pas ce que demain me préserve.
D'accord, d'accord. Y a peut-être un gap financier aussi. Hein, parce que c'est, le challenge, il est sportif, il est financier aussi. Peut-être pour tout le monde, n'importe quel professionnel de n'importe quel métier est attiré aussi par des challenges aussi. Ça, je voulais aussi basculer vers Denis, Manu, savoir si les arbitres étaient assez payés. Mais je ne sais pas ce que tu peux nous dire, Alex, là-dessus.
Mais moi, je vais être très très clair. Franchement, quand on fait le cumul, parce que j'avais un statut d'arbitre professionnel et international, où j'arbitrais les 6 nations, et quand on fait le cumul sur une année de top 14, des matchs de top 14 plus les matchs internationaux, franchement, cumulé sur l'année, c'est kiff kiff avec ce que je gagne aujourd'hui, quoi.
D'accord.
C'est pas non plus je suis pas aujourd'hui d'autres joueurs qui gagnent énormément.
Il est pas arrivé en Ferrari à la maison.
Non,
t'as pas plié Philippe Saint-André aussi.
Et aujourd'hui, ma voiture, c'est toujours mon Jeep dernier, qui a 3 ans. C'est toujours...
Ouais, mais c'est une pince, Philippe. Pour être un peu plus généreux, quand même.
Ouais. Non, mais voilà, mais en tout cas, je suis pas parti pour l'argent. Bien évidemment, que si demain une proposition m'est faite, bien sûr que je vais y réfléchir sur cette partie-là, parce que j'ai pas voulu faire le gourmand au départ. J'ai juste, franchement, saisi une opportunité qui s'était présentée à moi.
On va basculer, juste, tu vas rester avec nous, Alex, sur on va vous dire un mot des 8e de finale de Coupe d'Europe. Juste pour terminer là-dessus et ponctuer ça, parce que le staff, plusieurs membres du staff à Montpellier ont prolongé, et ton contrat, toi, va jusqu'à 2023.
En fait, on était. C'est rigolo.
C'est la question pas posée, j'entendais Julien rigoler.
Non, mais il rigole parce qu'en fait, il me l'a dit ce matin et que je lui ai dit. Donc, il me dit, t'es d'accord pour qu'on la pose? Je lui dis, écoute, en fait, tu peux la poser.
Tu peux pas répondre.
Non, mais je vais être très, très, très clair. Aujourd'hui, moi, j'avais un contrat d'entraîneur adjoint. Ce qu'a souhaité Philippe, c'est d'abord Philippe a renégocié son contrat en tant que directeur du rugby, et c'était une priorité parce qu'on était liés
plus grand chose, hein.
Tous les 5 à lui. On était liés tous les 5 à lui jusqu'en 2023.
Ouais.
Même tous les 4 et lui, on était à 5 liés jusqu'en 2023. Ensuite, il y a eu une évolution dans les rôles de Jamba et d'Olivier dans entraîneurs principaux. Donc, ils ont renégocié en premier. Et aujourd'hui, Bruce et moi, en tout cas, je parle à mon nom propre. Bruce Rihanna, qui s'occupe des skis, du jeu au pied. On n'est pas rentré en, moi, je ne suis pas rentré en renégociation. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas d'annonce particulière à vous faire.
Allô, Moed ? Non, voilà. D'accord, mais au moins c'est clair. Est-ce que tu restes 1 minute avec nous,
oui,
Alexandre ? On
oui.
voulait basculer Denis, Manu, sur ces Julien aussi, hein, sur ces 8e de finale de Champions Cup, cette actu aussi. On va scinder ça en 3 avec les ballotages favorables, ceux qui sont encore taille-taille et ceux pour qui c'est compliqué. Ballotage favorable, La Rochelle, plus 18 face à l'UBB. Allez, on va mettre Montpellier, mais on va en parler. Plus 14 face au Harlequins et le Racing plus 13 contre le Stade Français. Denis, qui passe, qui cale? Attention à ce que tu veux dire.
Bordeaux, c'est fini. D'abord, je pense que Rio s'est fait une... C'est tourné déjà vers le top 14, à mon avis.
Psychologiquement, après les 2 défaites contre La Rochelle, c'est vrai que ça fait...
Puis, Alex, il est pas content parce qu'il vient à Montpellier dans 15 jours. Donc
le problème, c'est pas tellement la différence de points. C'est que la démonstration de La Rochelle en défense et dans les rucks, dans les zones des rucks, ils ont été impressionnants. Donc je pense qu'ils sont en train de monter en puissance, La Rochelle, et que le retour était quasi... C'est mission impossible pour moi.
Le Racing aussi, tu les vois
Racing en roue libre
c'est
aussi.
C'est la même chose. Hein,
en roue libre chez eux, ça va faire peut-être encore cher pour le Stade Français parce que l'atout est suspendu, il y a encore des blessés, il n'y a pas grand monde qui va rentrer, donc 30-40 points.
Et Montpellier, Denis?
Et alors Montpellier, compliqué ouais. parce que l'Harlequins, une équipe qui est plaisante, qui a du tempérament, qui n'est pas habituée à être concassée comme ils l'ont été pendant 50 minutes. Je pense qu'il y a
il va y avoir de la grêle, je connais
je
pas la météo, mais il va y avoir
de la revanche dans l'air.
Et puis il y aura un peu de turnover à Montpellier.
Ils sont costauds devant, il y aura des turnovers à Montpellier, donc c'est pas fait. Sincèrement, c'est pas fait.
Manu, t'es d'accord?
Ouais, La Rochelle, un temps d'avance. Ce qu'on s'était dit au Moscato Show, hein. Vincent Moscato n'était pas d'accord jeudi dernier.
Il avait dit le bébé
Bordeaux.
Au-dessus, ouais, je crois.
Ouais, voilà. Donc, on a bien vu les connaisseurs du rugby. ouais, temps d'avance sur La Rochelle, temps d'avance sur le Racing également. La question, Julien l'a dit, Montpellier va faire tourner. C'est jusqu'à où Montpellier va faire tourner? Est-ce que cette victoire ou le scénario de cette victoire a changé les plans de PSA? On va pas emmerder Alexandre avec ça aujourd'hui.
Problème que la semaine d'après, il y a Montpellier
voilà,
bébé.
C'est ça. Donc, mais moi, je mets un billet aussi sur Montpellier.
Alors, parce que Montpellier bébé, Philippe l'a dit, si Montpellier bat Bordeaux dans 15 jours,
c'est l'autoroute
Montpellier
pour Nice.
Sera quasiment assuré d'être parmi les deux.
Ouais. C'est ça.
Manu, enchaîne. Une équipe qui est encore en lice, même si elle a perdu à domicile, c'est le Stade Toulousain. Moins 6, défaite 26-20, à 14 pendant 70 minutes. Est-ce que les champions vont le faire à Belfast?
Ah, ils sont capables de le faire. Est-ce qu'ils vont le faire? Ça, j'en sais rien. Je suis incapable de te le dire aujourd'hui.
C'est pareil, il faut regarder la météo,
Denis.
Oui,
la météo va être catastrophique. Hein.
Non, mais ça appartient au groupe, ça appartient à la force de cette équipe à se relever de cet échec. Je crois que le Stade Toulousain a toutes les cartes en main pour le faire. Maintenant, est-ce qu'à ce moment de la saison, est-ce qu'ils sont capables de le faire? Ça, j'en sais rien.
Ça commence à tirer. On a vu
ça tire beaucoup. Ouais.
Alors, le problème, c'est que l'Ulster, c'est une terre d'accueil terrible. Donc, je pense des conditions exécrables de météorologiques. Voilà,
t'as Belfast dans tes points météo de Météo France.
Romain, Tao, Fifi.
Mais c'est pas impossible. Mais pour moi, ça relève de l'exploit quand même.
Ouais, moi j'y reviens. Ouais. Je sais pas. Je suis sceptique quand même sur la capacité des Toulousains à se relever, même s'ils ont les qualités pour le faire.
Et enfin, les clubs pour qui la marche semble trop haute. Bon, Paris coché tout ce qu'on a évoqué. Hein, Bordeaux, Stade Français. Il reste Clermont battu 29-10 une équipe de Leicester, messieurs, mais impressionnante. Ils sont en tête du championnat anglais. Ils sont invaincus à domicile. Ils ont perdu que 3 matchs cette saison. Ouais, une fois qu'on a dit ça, Denis.
Non, j'ai vu le match. Écoute, ils sont d'un pragmatisme et surtout ils sont cliniques, quoi. Mais il y a rien à dire parce que défensivement ils sont monstrueux. Donc puis c'est plein. Les avants ils sont pleins. Tu sens quand même qu'il y a physiquement ils sont au top. C'est mission impossible.
Après le carton rouge des Anglais, clairement une balle d'essai. Et derrière, ils se font punir à une vitesse, mais physiquement, c'est...
C'est physiquement, parce que moi, j'étais impressionné par le physique.
Impressionnant, hein. Impressionnant.
Ah, mais je vous conseille d'aller voir leurs résultats toute la saison, là, en championnat, c'est impressionnant.
C'est
Alexandre, juste, parce qu'on va pas te demander des pronostics, évidemment, pour les clubs français, des choses comme ça, mais il y a une chose qui t'a marqué dans ces huitièmes de finale, un club, un match, un moment, une prestation ou...
Ouais, nos 50 minutes hier, je trouvais qu'elles étaient
c'est bon, ça.
De bonne qualité. Je pense qu'on a joué au rugby, mais au-delà de ça, non, mais je suis d'accord avec
être coach, toi. Hein.
Non, je suis d'accord avec Denis. Leicester, les Anglais, je les ai trouvés aussi très réalistes. Parce qu'à un moment donné, ils sont en position d'encaisser un essai et derrière, ça contre-attaque. Mais pareil, ok, les résultats sont très bons, mais les stats, je les ai regardés avant le match parce que je suis. Voilà, je regarde un petit peu ce que se fait ailleurs et comment les équipes jouent. Aujourd'hui, les Anglais n'ont pas beaucoup de la possession. Mais par contre, Denis disait qu'ils ont une défense de fer, mais sur les turnovers, c'est des machines.
Oui, c'est des machines.
Et que, voilà, ils gagnent les contacts, et ils avancent.
Ah, ils sont tellement anglais dans l'attitude.
Ford a pas été très bon au départ au pied, mais
il a repris après.
Au poteau, il a pété peut-être un peu moins bon que d'habitude, mais par contre, dans l'occupation, il a été très très bon et très précis.
En tout cas, vous, Montpellier, en cas de qualification, vous irez soit à La Rochelle, soit à Bordeaux. Pour l'instant, la tendance, si vous passez évidemment, ce serait d'aller à La Rochelle. Et Bordeaux, on l'a dit, c'est votre prochain adversaire en top 14 le dimanche 24 avril à 21h. Merci Alexandre d'être venu entre les poteaux, c'était passionnant.
Merci pour votre accueil.
J'espère que tu as passé un bon moment aussi.
Très très bien, merci beaucoup.
Merci les poteaux.
Merci Alexandre.
Merci Denis, merci Manu, merci Julien d'avoir accueilli Alexandre. On remercie Pierre Amiche et Daniel Torres. On vous embrasse pour ceux qui ont téléchargé ce podcast. On espère que vous serez nombreux à nous écouter. On s'est régalé et on se retrouve la semaine prochaine. Il se pourrait la semaine prochaine qu'on se penche sur le cas du RC Toulon avant le Toulon-Toulouse de feu au stade Vélodrome. Bonne semaine, salut.
Ciao, ciao.
Salut.